comme si vous aviez besoin de quelque chose de plus pour entreprendre un beau week-end, on vous offre sur un plateau d'argent une chronique avec Daniel Brière aux amateurs de sport. Bonsoir, Daniel.
Bien, salut, Mario.
Comment ça va?
Ça va super bien, toi-même?
Ça va très, très bien, mais je vais t'avouer bien franchement là, que j'ai hâte que le camp d'entraînement finisse. J'ai l'impression que c'est trop long. Il n'y a pas trop de signification à part de regarder une couple de joueurs aller. Il est temps que ça commence, Dan. Il est temps que ça commence.
Oui, je l'avoue. Puis même, je me souviens, là, comme joueur, là, quand on arrivait dans la troisième semaine du camp d'entraînement, là, on avait hâte qu'on passe aux vraies choses, dans le fond, parce que ça vient long, tu sais, les pratiques sont difficiles, c'est des longues séances, t'as du travail en gym à faire pour te préparer, il y a les systèmes de jeu que les entraîneurs veulent installer aussi, fait que c'est toujours là, beaucoup de temps pendant les camps d'entraînement, les gars ont hâte que ça débute.
Puis il y a l'analyse des performances qui est pas évidente parce que la réelle intensité là, d'un match préparatoire, ça n'a rien à voir avec bon un match des séries. Je comparais pas un match des séries, mais tu le sais, Daniel, un match d'ouverture, là, ça grimpe d'intensité par rapport à tous tes matchs préparatoires, là, solide. Fait que c'est quand tu as de l'intensité que tu peux vraiment évaluer. Fait que j'ai l'impression que le vrai camp, là, le vrai moment où tu évalues ton équipe, c'est dans les 5-10 premiers matchs de l'année, puis perds-en pas trop parce qu'il est peut-être trop tard.
Non, c'est ça. Puis tu sais, c'est pas un secret. Là. Pour les vétérans qui ont leur poste garanti, les matchs pré-saison sont là pour se préparer, sont là pour. T'as pas besoin d'être à ton mieux pendant le camp d'entraînement. Tu vas essayer d'être à ton mieux quand la saison va débuter. Puis à l'envers de la médaille, ben les recrues, eux autres, peuvent pas se permettre d'être au meilleur jusqu'à la saison va commencer. Les recrues doivent être à leur meilleur du début du camp, parce qu'ils ont beaucoup à prouver, ils veulent faire l'équipe. Donc, c'est un peu pour ça que je suis pas surpris là, de voir que des gars comme Fleury, Suzuki, Kotkaniemi l'an dernier, Poehling, ces joueurs-là ont beaucoup à prouver pendant le camp d'entraînement, beaucoup plus que certains joueurs qui ont leur poste garanti.
Ben, t'as raison de dire ça, puis on le sent dans le jeu de plusieurs vétérans. Là, Marc Bergevin l'a dit, il y a plusieurs joueurs qui n'ont pas des gros camps d'entraînement, sauf que dans le cas de Jonathan Drouin, on dirait que lui, il a pas de marge de manœuvre parce que les gens sont tellement curieux de voir s'il revient un peu Jonathan 2.0 par rapport à sa fin de saison l'an passé, qu'il y a une certaine impatience, au point où... puis il y a des rumeurs de transactions en plus. Fait que, tu sais, c'est un sujet chaud. As-tu une petite idée comment il doit se sentir dans tout ça? Hier, là, il était à pic. Ça, il tentait pas trop de répondre aux questions. Ouais. On peut le comprendre.
Mais tu sais, c'est pas une situation facile. Puis d'un côté, je comprends ce que les fans voient. Puis ils disent, ah, il retourne à l'an dernier. Puis ce qu'il nous a laissé l'an dernier, c'était pas assez bon. On a besoin de plus. Je le comprends, ce côté-là. Sauf que les matchs veulent rien dire. Puis peut-être que c'est sa façon de se préparer. Puis il a besoin d'un début de saison. Puis j'avoue, moi aussi, que ça me fait peur. Ça me fait peur pour le Canadien. Ça me fait peur pour Jonathan Drouin. Mais je pense qu'on y va un petit peu trop loin. Là. Ces matchs-là veulent pas encore rien dire pour le Canadien et pour Jonathan Drouin. Je pense qu'on doit lui donner un petit break. Là. C'est le camp d'entraînement. Laissons-lui se préparer.
Ben, je suis tellement content que tu en parles, Dan, parce que sais-tu quoi? Claude Julien l'a dit. Ron le disait hier, là, donnez-en un break, mais le coach aujourd'hui l'a dit publiquement. C'est rare qu'un entraîneur vocalement vienne à la défense d'un joueur. Puis là, écoute, l'année n'est même pas commencée. Moi, j'étais content d'entendre ça. Comment tu réagis à ça?
Ben oui, moi aussi, écoute, je suis totalement d'accord avec ça. La saison n'a même pas commencé. Le gars, il se prépare pour la saison. Si ça commence les 10 premiers matchs de la saison, puis il a pas de points, il est pas capable de créer rien offensivement, ben là, on peut lui tomber sur la tomate. Mais dans le moment, là, c'est le camp d'entraînement. Je pense qu'on doit le laisser se préparer. Ça veut rien dire, ces matchs-là, c'est sûr que c'est inquiétant, je l'avoue moi aussi. Sauf que de là à dire que le Canadien doit se débarrasser de lui, qu'on ne devrait pas le faire jouer. Non, au contraire, je pense qu'on doit lui donner encore plus de temps de glace pendant les matchs préparatoires pour essayer parce que puis j'étais comme ça moi aussi. Jonathan Drouin, c'est un gars, il doit se sentir confortable sur la glace. Puis une façon de se rendre confortable, c'est de jouer beaucoup de matchs, c'est de passer beaucoup de minutes sur la glace. Donc, je pense que Claude Julien comprend ça, il va lui donner la chance de continuer à se préparer, à jouer des matchs, en espérant que les choses tournent pour Jonathan, puis que la confiance lui revient, puis qu'en saison régulière, tout va bien pour lui, mais je comprends que c'est inquiétant.
Quand tu es encore aussi jeune que Jonathan Drouin, tu vois la composition des trios, puis que Suzuki, sur un alignement, on verra là, si ça se concrétise au match 1 de la vraie saison, mais tombe dans le top 6, puis ça se peut que toi, tu sois sur un troisième trio. Est-ce que comme gars qui a quelques années d'ancienneté, ça te fatigue, ça vient tout chercher, même si tu n'en parles pas à personne, Dan?
Ben oui, c'est fatigant, ça t'achale. Il n'y a pas de doute que ça travaille dans la tête. Je suis certain que ça travaille dans la tête de Jonathan aussi. Sauf que, écoute, c'est pas comme si Suzuki l'avait pas mérité depuis le début du camp. Il a fait ses preuves. Si on parlait plutôt que des jeunes joueurs comme ça ont beaucoup à prouver à partir du jour numéro un du camp d'entraînement. C'est comme ça que Suzuki est arrivé. Puis du côté de l'organisation du Canadien, Claude Julien et compagnie, on veut voir ce qu'il y a dans lui. S'il est vraiment prêt à commencer la saison avec nous, avec la grosse équipe. Fait que c'est pour ça. Là, on lui donne de plus en plus de chances. Puis là, on lui donne des alliés ou un joueur de centre qui peuvent l'aider encore plus. Fait qu'on veut juste voir qu'est-ce qu'il y a dans lui, s'il est vraiment prêt à débuter l'année, puis à quel endroit.
C'est excitant de voir des jeunes talentueux arriver puis prouver là, qu'ils vont peut-être un jour là, avoir un impact semblable à celui qu'ils avaient dans les rangs juniors là, où ils ont dominé, comme c'est le cas de Nick Suzuki qui a vraiment dominé la Ligue de l'Ontario l'an passé. Paling arrive, a créé une belle impression avant sa commotion. Mais maintenant, d'envisager d'entreprendre la saison régulière avec Suzuki, Paling s'y rétablit de sa commotion, Cale Fleury à la ligne bleue, et Kotkaniemi qui n'a pas fini sur une pente ascendante l'an passé, qui a un camp tranquille. Toi, Daniel, tu penses-tu qu'un club qui mise sur 3 recrues et demie, là, je mets Kotkaniemi dans le tas, peut envisager de faire les séries?
Oui, sans aucun doute. Sans aucun doute. Écoute, pour les joueurs qui sont là, quand tu vois des jeunes arriver puis faire leur place, s'ils sont meilleurs que les autres joueurs, puis ils peuvent vraiment t'aider, les leaders de l'équipe vont être extrêmement contents de ça, puis ils vont vouloir les avoir à leur côté. C'est sûr que les joueurs qui vont perdre leur place, eux autres ne seront pas contents. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais les leaders de cette équipe-là vont être très, très heureux de voir qu'un jeune comme Suzuki, puis peut-être que ça ne durera pas toute l'année, mais s'il peut arriver puis les aider pour les 10-15 premiers matchs de l'année, écoute, les joueurs vont être très, très emballés de ça, puis ils vont essayer de l'aider du mieux qu'ils peuvent parce que c'est un plus pour l'équipe, ça les fait mieux paraître eux autres aussi.
Je ne veux pas faire le rabat-joie loin de là, là. Je fais l'avocat du diable poser la question pour la discussion, mais des fois, un gars a l'air prêt. Kotkaniemi, l'an passé, avait l'air prêt. On l'a fait jouer, puis c'était bon de l'avoir autour. Il incarnait l'espoir. Il n'y en avait pas beaucoup d'autres espoirs dans le camp du Canadien. Fait qu'il a été très utile à l'organisation, puis il n'a pas joué du méchant hockey, mais il s'est essoufflé, là, aux trois quarts de l'année. Fait que, on peut. Oui. Puis là, j'entendais Marc Bergevin parler de Suzuki qui dit c'est plus le même gars qu'au camp l'an passé. Ce qu'il a vécu dans le junior, les séries d'être le meilleur joueur, là, il est transformé. Ben, tu sais, je me demande. On peut pas reculer en arrière, là. Puis Kotkaniemi va sûrement commencer l'année puis peut-être passer toute l'année à Montréal. Mais des fois, les gars ont l'air prêts. On les fait commencer tout de suite. Puis je suis pas sûr qu'on prend tout le temps la bonne décision. Ils ont l'air prêts, mais ils vont manquer de souffle pendant l'année, potentiellement. Ton opinion?
Oui, ben écoute, je l'ai dit l'an dernier quand on a amené Kotkaniemi. Moi, ce que je disais, si on garde puis il joue, puis il a joué, puis je pense que c'était la bonne décision. Oui, c'est essoufflé parce qu'il n'était pas habitué de jouer avec un calendrier là, et c'est au plus soufflant la Ligue nationale te donne. Puis ça peut être un peu la même chose dans le cas de Suzuki, mais si les gars sont prêts en début de saison, puis ils sont dans ton top 6 ou ton top 9 au moins, à mon avis, tu dois les laisser jouer. Par contre, si c'est un joueur qui se retrouve à jouer 6, 7, 8 minutes par match, donc là, c'est pas pour le mieux du développement du joueur. Puis c'est à ce moment-là qu'on doit les retourner soit dans la Ligue américaine ou dans leur équipe junior respective. Mais honnêtement, j'ai pas de problème à ce qu'ils ont fait avec Kotkaniemi l'an dernier. Peut-être qu'en fin de saison, il aurait pu le laisser jouer, mais on savait pas s'il était pour avoir une baisse de régime en fin de saison comme il y a eu. Mais je pense qu'il va être mieux préparé. Moi, je m'attends à une grosse saison de Kotkaniemi cette année.
De Kotkaniemi, Paling et Suzuki, lequel penses-tu dans 10 ans aura accumulé le plus de points sur sa fiche personnelle? Une petite question du champ gauche comme ça, Daniel.
Dans le moment, je te dirais que, écoute, ça peut être 3 bons joueurs de hockey, mais si on parle juste de points récoltés, j'ai comme l'impression que Kotkaniemi va peut-être être un joueur un peu plus complet, mais Suzuki peut être un peu plus une bougie d'allumage, peut être un joueur qui peut contrôler les matchs offensivement. Il jouera peut-être pas contre... puis écoute, je peux me tromper, là, mais je vois plus Scott Kanemi avoir le rôle de joueur qui va affronter les meilleures lignes de chaque équipe à chaque soir.
Ah.
Puis Suzuki peut-être avoir plus offensivement là, à donner aux Canadiens. Mais les, écoute, sont jeunes encore, les choses peuvent changer. Les deux ont extrêmement de potentiel. Donc, je peux voir là, un de ces deux gars-là dominer, ou les deux même, peut-être là, un jour pour le Canadien pendant de longues années.
Sur l'aspect essoufflement potentiel, je suis pas trop inquiet dans le cas de Suzuki parce que lui, jouant en Amérique du Nord, dans le junior, il en a joué des matchs l'an passé. Écoute, 30 matchs avec Owen Sound, 29 matchs avec Guelph, il a joué 24 autres parties en série. Je sais même pas si ça comprend la Coupe Memorial, ce que j'ai sous les yeux, plus le championnat du monde junior. Fait que lui, d'après moi, il est prêt pour un gros calendrier. J'ai très hâte de voir ça. Oui, t'allais ajouter, Dan?
Ouais, il est habitué à jouer beaucoup de matchs. Par contre, écoute, la rigueur d'un calendrier de la Ligue nationale, d'affronter puis de jouer aussi physique que ce l'est soir après soir, des fois, c'est ça là, qui pourrait lui donner un peu plus mais, de problèmes. Mais je pense qu'il va être mieux préparé à cause de ce calendrier-là qui a déjà passé au travers au niveau junior, va être mieux préparé que Kotkaniemi quand il est arrivé l'année passée, parce qu'on sait qu'en Europe, là, on joue beaucoup moins de matchs, des calendriers de normalement à peu près 48 à 50 matchs là, pendant la saison régulière.
Exactement. Et Kotkaniemi, je vérifiais pendant qu'on discutait, avait joué, lui, l'année précédente, 57 plus 7 en série. C'était quand même pas mal, mais c'est pas c'est pas les mêmes voyages non plus là, qu'en Amérique du Nord. Tu sais, on parle des matchs, mais il y a des déplacements. Même les gars qui suivent les équipes sur une base régulière qui ne jouent pas sont fatigués mentalement et physiquement parfois à la fin d'une saison. Fait qu'on peut deviner ce que c'est que de jouer. Un mot en terminant, situation d'Austin Matthews. Les dirigeants des Leafs de Toronto apprennent sur Twitter qu'il est accusé là, d'un comportement répréhensible à l'endroit d'une dame avec des compagnons. Tu te mets dans les bottines des dirigeants. Il avait pas l'air content, hein?
Non. Non, il était pas content d'apprendre ça. Puis écoute, j'essaie de me mettre dans les souliers d'Austin Matthews. Il se passe quelque chose comme ça. Tu espères qu'il n'y aura pas
de plainte.
Personne va porter plainte. Tu espères que ça sortira jamais. Fait que tu te dis, écoute, si je suis capable de m'en sortir, je dis pas un mot à personne, puis peut-être que ça va passer sous le tapis. Pourquoi aller me rendre coupable là, avant que je le sois vraiment? Donc, c'est un peu, là, j'essaie de me mettre dans la situation des deux. Je peux comprendre ce qu'Austin Matthews espérait à travers tout ça, mais il n'y a pas de doute là, que c'est une erreur de jugement qu'il a faite, comme il a dit là, cet été.
Il y a une chose qui est certaine, je pense pas qu'il va hériter du titre de capitaine, mais selon moi, ça n'a rien à voir avec cette histoire-là. Je pense qu'on a en tête soit Tavares, Morgan Riley. On en discutera la semaine prochaine. Le choix, on est proche d'un choix du côté des Leafs. C'est tout le temps qu'on a pour l'instant, Daniel. Bonne fin de semaine en Alabama où tu vas avoir joué un de tes fistons, puis au plaisir de te reparler bientôt.
Ben, j'ai bien hâte que la saison commence, moi aussi. On se reparle la semaine prochaine.
Parfait, salut, Daniel. Bonne fin de semaine. Ciao.
Bye-bye.
C'est du football qui vous attend après la pause. Et en compagnie de Bruno Eppel, on va se demander si les Alouettes privées de Vernon Adams pourront enchaîner avec une victoire à la suite de leur superbe performance de la semaine dernière à Montréal, demain contre les Lions de la Colombie-Britannique et les matchs qui retiennent l'attention dans la NFL. À tout de suite.